À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. J'espère que vous avez passé un bon long week-end. Aujourd'hui, on va parler compost, ce sera en seconde partie d'émission. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Mais tout de suite, on prend des nouvelles d'un projet et d'une association qui fête son premier anniversaire, la Villa des Prémignons. Et pour en parler, on accueille Maria Henriquez et Amélie Lacombe. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce projet donc, et de cette association liée à ce projet, la Villa des Prémignons. Peut-être nous parler d'abord, pour nos auditeurs et auditrices qui ne se situeraient pas, nous parler de cette maison.
Alors, cette maison, elle a une longue histoire. On va dire que, pour faire court, qu'elle a été construite en 1882 par la famille Pingot-Badillet afin de faire des réceptions, de recevoir la famille, des amis. Donc c'était une villa de villégiature et construite dans le style de l'époque.
Et donc, elle a été habitée un certain temps et puis un jour abandonnée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, elle a été habitée par la famille Badillet, Pingot-Badillet, jusqu'en 1984. Et en 1984, la municipalité de Poitiers fait l'achat de cette maison et du parc de 7 hectares. Et depuis 1984, eh bien, elle a été pratiquement laissée à l'abandon. Elle a été squattée, pillée, brûlée en partie. Et donc, depuis, c'est en 98, on a refait la toiture. Et en 2000, elle a été murée.
Donc voilà, et vous, vous êtes de ce quartier sud, c'est ça? Vous habitez là-bas? Vous êtes habitantes toutes les deux?
Oui.
Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombée amoureuse de cette maison?
Moi, ça fait 40 ans, enfin plus de 40 ans, que je la vois murée, cette maison, fermée. J'ai fait ma curieuse, quand on m'a dit on peut rentrer dedans, la ville nous ouvre. Voilà, on commençait à en parler avec les habitants du quartier et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un peu un rêve de gosse de pouvoir rien déjà rentrer dedans. Et puis après, ça s'enchaîne.
Et donc, vous avez créé l'association, etc. On va en parler. Comment ça a été la première fois où vous avez mis les pieds dans cette maison, restée à l'abandon depuis 40 ans?
On se demande si on ne va pas passer à travers le plancher, déjà.
Ah oui, d'accord.
Quand on rentre, donc casque et chaussures de sécurité obligatoires, parce que le plancher est pourri, ou inexistant même par endroit. Donc, ça fait peur au début.
Mais il y a une ambiance aussi.
Oui. Ah oui,
très... Des belles pièces. Ouais.
Très belle pièce. Il y a vraiment les vestiges d'une maison bourgeoise qui était habitée par une famille heureuse, qui faisait des fêtes. Et il y a des photos qui en témoignent. Et on retrouve, lorsqu'on fait le débarras des gravats, parmi les gravats, on trouve des photos, des cahiers, des livres, enfin, un témoignage d'une vie. Voilà.
Et donc, vous avez décidé de vous emparer de la réhabilitation de cette maison avec la complicité de la ville de Poitiers. Comment est née l'association donc, autour de cette villa?
Alors, l'association, elle est née à partir d'un rêve commun des habitants du quartier en 2021, lors de la fête du quartier, où un petit groupe se dit « bon, il faut faire quelque chose de cette maison ». Et un collectif est créé et en 2023 se réalise la première assemblée constitutive donc une AG qui crée l'association de la Villa des Prémignons. Et depuis 2023, eh bien voilà, les choses sont parties.
Et donc vous avez rencontré la ville parce que c'est la ville qui est propriétaire donc du parc et de la villa. Il a fallu quoi? Les convaincre qu'il fallait la réhabiliter? Comment ça s'est passé?
Je pense qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup les convaincre. Ils étaient, ils nous suivent. Hein, voilà. Après, c'est à nous de nous débrouiller pour trouver les financements, les partenaires, parce que ça ne va pas être simple. Il y a quand même un gros travail à faire de ce côté-là. Je pense qu'on n'est pas encore rendu au bout de ce projet. On en a pour quelques années, mais c'est le faire ensemble qui est important dans ce projet aussi, c'est d'être, de se retrouver sur un projet commun.
Alors, vous êtes, ça crée un véritable engouement. Mmh. Vous êtes très nombreux déjà dans l'association pour un an d'existence.
Une centaine, c'est ça.
Une centaine d'adhérents déjà. Alors, et puis, il y a eu des dates phares, notamment ce jour où officiellement la ville vous prête la villa pour y faire les travaux. C'était en mai l'année dernière, c'est ça?
Alors, en mai, la convention a été signée entre la municipalité et l'association. Donc, qui venait d'être créé. Et la remise des clés a été officiellement faite le jour de la fête du quartier, le 2 septembre.
Donc 2 septembre, fête du quartier. D'ailleurs, dans votre projet, il y a tout cet aspect festif. À chaque fois, il y a des moments de regroupement. Ce n'est pas qu'un projet patrimonial.
Non, il y a le prochain événement, c'est la semaine prochaine, dimanche, avec les deux écoles du quartier. Du coup, on va fêter Pâques, faire une chasse aux œufs dans le parc. Et il y aura une lecture de contes devant la villa. Donc voilà, c'est rassembler toutes les générations aussi pour faire vivre les abords de la villa aussi.
Et on espère faire aussi bien qu'à la fête d'Halloween. C'était notre première manifestation dans le cadre de l'association, qui a rassemblé plus de 500 participants, dont 200 enfants.
Waouh. Donc rendez-vous est pris pour dimanche, la semaine prochaine. Alors cette villa, quelles sont les différentes étapes qu'il va falloir franchir pour arriver à l'ouvrir au grand public, hein? Je crois que c'est ça l'objectif.
Alors déjà, nous avons commencé le travail de débarrasser la villa de ses gravats et de tout ce qui l'encombre. Nous
10 avons tonnes depuis le début de l'année.
Voilà, 10 tonnes de gravats ont été enlevées et déversées dans les bennes de mise à disposition par la municipalité. Et nous allons commencer le travail de curage que l'on nie, voilà, de remettre à nu les murs, pouvoir continuer à faire les diagnostics de l'état des murs et par la suite commencer le travail de restauration. Là, il y a déjà eu aussi, et on continue à le faire, un travail de sécurisation des planchers. Et on a fini de détruire le plancher là où il y avait eu l'incendie dans le grand salon. Et qui communique maintenant avec la cave.
Ça fait une grande hauteur sous plafond. Et comment vous vous organisez là avec cette centaine d'adhérents? Il y a des chantiers participatifs. Comment ça se passe concrètement?
On a un groupe WhatsApp du coup où tous les adhérents ont les informations sur les futurs chantiers. Parce qu'il faut être adhérent pour participer au chantier. Sinon, c'est juste une question d'assurance, mais c'est très important. Donc là, ils sont au courant que le week-end prochain, le samedi, il y a chantier. Voilà, on va continuer de débarrasser, de nettoyer.
Et votre objectif à long terme, c'est quoi pour cette villa? Qu'est-ce que vous, dans votre rêve, ce serait d'en faire quoi?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'idées. L'objectif, c'est d'en faire un lieu de partage, de rencontres socioculturelles qui rassemblent les habitants du quartier, mais au-delà du quartier aussi la ville, et pourquoi pas bien au-delà. Voilà, ça, c'est le grand objectif. Les actions, les activités deviendront certainement plus concrètes lorsqu'on pourra voir l'état des travaux, de ce que l'on peut entreprendre en fonction de l'espace et justement des capacités d'accueil.
Donc les prochaines étapes, une fois le curage terminé, c'est vous associer avec un architecte, c'est faire des diagnostics, des plans.
Alors les plans, nous les avons. Nous avons une architecte.
D'accord, vous avez déjà...
qui est la secrétaire de l'association. Il faut dire que dans l'association et parmi le groupe, le noyau fondateur de l'association, ce sont des personnes du bâtiment qui ont été justement très sensibles à la demeure, d'où justement notre secrétaire architecte, le président qui est le menuisier et d'autres personnes qui travaillent dans le bâtiment.
Des compétences
également.
En interne.
Il y a
donc
des compétences en interne, effectivement. Mais à cela, bien sûr, il faudra certainement ajouter d'autres personnes qui auront aussi leurs propres compétences pour bien réhabiliter l'espace et le sécuriser pour accueillir du public.
Et vous vous êtes donné combien de temps?
Hein, on n'a pas de calendrier.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est un peu au jour le jour, mois par mois. Voilà. Donc, étape après étape, on progresse.
Quoi aujourd'hui vous avez besoin après un an de création de l'association? On voit que ça a déjà bien avancé. Vous avez besoin de quoi? De financement, de bras, de tout ça?
Tout ça. De tout partenaires, ça. D'associations qui veulent nous rejoindre, d'écoles pour faire des chantiers écoles. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de nous aider en fait.
Des partenaires justement importants, qui ont des fondations et qui pourraient nous financer à une grande hauteur, on va dire. Donc de bons financements et puis aussi la participation de tout le monde, à même 10 euros d'adhésion, c'est déjà ça. Donc tout est bienvenu, toutes les bonnes volontés sont appréciées.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à Marie-Henriquez et Amélie Lacombe d'être venues nous parler de cette villa des Prémignons et donc qui progresse petit à petit. Et un jour, peut-être, on pourra y rentrer.
Je l'espère.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec Anna Lua Cayano. C'est elle qui fait tout. Vous savez, avec cette petite station loop là, qui lui permet d'enregistrer ce qu'elle fait, tambour, synthétiseur, claquement de main. Et elle est d'origine portugaise, d'ailleurs. C'est dans sa langue qu'elle partage sa musique. Et son EP est sorti l'année dernière.
Parle-moi. Dis-moi que tu entends mes paroles.
Je trouve que c'est toi en plus.
Ah ouais?
Nous sommes en pleine 11e édition de Tous au compost, une édition qui nous permet d'être sensibilisés au compostage. Et pour en parler, on accueille tout de suite la directrice de l'association Compost Age, Delphine Deveau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette édition 2024 de Tous au compost. Pour une association comme la vôtre, j'imagine que c'est un peu l'événement phare de l'année.
Exactement, chaque année. Donc c'est la 11e édition. On est au rendez-vous pour pouvoir promouvoir le compostage, tout comme l'ensemble de notre réseau, puisqu'en France, c'est quand même 1600 événements qui sont organisés.
Alors, cette année, elle a peut-être, c'est peut-être une édition particulière, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est passée. C'est en train de s'appliquer un peu partout. On est obligé maintenant d'avoir un bac à compost quelque part près de chez soi.
En tous les cas, depuis le 1er janvier, il y a l'obligation du tri à la source des biodéchets, ce qui signifie qu'on ne jette plus ces biodéchets dans la poubelle noire. On doit trouver une autre solution. Et pour nous, bien évidemment, le compostage.
Donc, à Poitiers, c'est en train de se mettre en place. Pas encore dans tous les quartiers, mais ça avance. C'est vrai qu'il y a certaines communes qui traînent un peu la patte, vous le remarquez ?
En tous les cas, c'est la relève de la compétence des collectivités, notamment des Comcom. Et donc, c'est Grand Poitiers qui déploie sur l'ensemble des 40 communes de Grand Poitiers le compostage collectif et individuel. Donc, la distribution des composteurs individuels est terminée sur l'ensemble des communes. Maintenant, on passe effectivement au compostage collectif. On a un peu plus de 120 sites de compostage collectif sur Grand Poitiers qui sont installés, mais il reste encore beaucoup à faire.
Est-ce que vous, justement, en tant qu'association, vous avez un rôle particulier dans ce déploiement de sensibilisation, de pédagogie ?
Tout à fait. Donc, Grand Poitiers nous a choisi pour être donc l'acteur de ce déploiement du compostage collectif. Donc, on est chargé de faire les études de faisabilité, donc voir comment réaliser ces sites de compostage, de les installer et surtout d'accompagner les habitants et les entreprises pour gérer leur composteur collectif.
Quelles sont les principales questions que les gens vous posent ? Est-ce qu'il y a encore toujours les mêmes questions qui reviennent ? Qu'est-ce que je dois mettre dans mon compost ?
Oui, alors ça c'est la première évidemment. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost ? Est-ce qu'on peut mettre des oranges ? Bien évidemment. Donc le thème de cette année de Tous au compost, c'est que tout se composte. Donc tout ce qui est alimentaire peut aller dans son composteur. Ça c'est la première question. Et l'autre question, c'est bien évidemment sur les nuisances. Ça pue, ça attire les rats. Donc ça, ce sont aussi des questions qu'on a souvent et que l'on démontre pour montrer que le compostage n'a pas ces nuisances-là.
Donc tout ce compost, effectivement, c'est le nom de cette édition. Même la viande, même...
Tout se composte, effectivement, tout ce qui est issu de la nature retourne à la nature, donc tout ce que, voilà, donc ça va de sa préparation de repas, des épluchures bien évidemment, que ce soit de légumes ou de fruits, mais aussi les restes de viande, les restes de poisson, tout ce qui est peut éventuellement périmé dans son frigo peut aller au compost, donc des produits laitiers. L'important, c'est de pouvoir bien gérer son compost pour que ça se... Non pas que ça pourrisse, mais que ça se décompose.
C'est ça, c'est qu'il y a juste des techniques à avoir et c'est équilibrer son compost en fait.
Voilà, la première des règles, c'est de bien équilibrer, donc faire son apport et le recouvrir de matière sèche. Donc la matière sèche va permettre d'absorber, on va dire, tous les gaz qui sentent mauvais. Hein, donc en mettant de la matière sèche, donc ça peut être des feuilles mortes ou du broyat de branches, ça va permettre donc de une meilleure décomposition, de mélanger aussi, d'apporter de l'oxygène à nos fameuses petites bêtes qui décomposent, et voilà, de respecter cet équilibre.
Et d'ailleurs, ce broyat, on peut le trouver dans les déchetteries. Si on n'en a pas chez soi, on peut aller le récupérer.
Alors, l'idéal, c'est de le trouver dans son jardin. Hein, donc, limiter évidemment les déplacements. Mais on peut aller effectivement à la déchetterie Saint-Nicolas qui distribue aussi du broyat ou auprès de notre association, puisqu'on est une association qui compte 90 adhérents qui, chaque mois, se réunissent et qui récupèrent du broyat.
Est-ce que vous voyez une vraie évolution des mentalités et voilà, des habitudes des habitants de Poitiers et des environs ?
Oui, on voit avec la distribution notamment des composteurs individuels que de plus en plus de personnes se mettent au compostage et s'y intéressent et posent vraiment de plus en plus de questions. Notre association existe depuis 10 ans et là, on a ressenti vraiment voilà, un vrai intérêt pour cette technique-là.
Et quelles sont les prochaines étapes, selon vous, qu'il va falloir franchir dans ce domaine ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 30% des Français ont une solution de tri à la source de leurs biodéchets, hein, soit par compostage, soit par collecte pour la méthanisation. Donc, il reste encore 70% des Français à toucher. Donc, ça sera vraiment le premier enjeu. Et puis, lever aussi certaines méconnaissances sur le compostage.
Alors, vous avez prévu des événements, ça a commencé déjà, je le disais, depuis le 23 mars. Donc, il reste quelques événements quand même cette semaine, notamment aujourd'hui, il y a un stand que vous organisez à Colombiers.
La Colombier, c'est donc, puisqu'on intervient aussi sur Grand Châtellerault, hein, notre territoire c'est Grand Poitiers, Grand Châtellerault et l'agglomération de La Rochelle. Donc ça fait un peu plus de presque 100 communes qui sont touchées. Donc à Colombier, effectivement, on donne rendez-vous à l'école pour montrer le site de compostage collectif, puisque dans les écoles aussi, il y a des sites de compostage. Et demain aussi, à Vouneuil-sous-Biard, il y a aussi un atelier tout l'après-midi de 14h à 16h. C'est gratuit et il suffit de s'inscrire pour pouvoir y participer.
Comment ça se passe dans ces lieux où le compostage est collectif, voilà, quand il y a des résidences, qui s'occupe de... parce qu'il faut s'en occuper du compostage.
Tout à fait, oui, oui, il ne faut pas le juste déposer et partir vite, hein. Il faut effectivement s'en occuper, le brasser, récupérer le compost, etc. Donc quand c'est dans des résidences et c'est du collectif, on fait effectivement appel à des habitants bénévoles et volontaires, mais ça peut aussi être sous-traité par... on a un certain nombre d'acteurs que l'on a accompagnés pour la montée en compétence dans la gestion de site. Donc ça peut être aussi sous-traité comme une prestation dans une résidence.
Et donc là, c'est des associations qui s'en occupent ou
Oui, voilà. Maintenant, on est 7 associations et entreprises à être formées, à pouvoir gérer les sites de compostage. Donc principalement des entreprises d'insertion. Et notre association fait aussi cet accompagnement-là.
Et donc, où part le compost quand c'est créé comme ça, de façon collective?
Alors, ce qui est très bien avec le compostage, c'est que voilà, on part d'un produit que l'on achète pour en faire une ressource. Hein, donc, on part d'un déchet pour en faire une ressource. C'est ce qu'on appelle le retour au sol. Donc, le compost, ben, c'est ce qui se met sur le sol et c'est ce qui va le nourrir. Notre terre s'appauvrit de jour en jour et avec le compost, on lui donne une nourriture saine sans aucun autre produit.
Mais vous sentez effectivement que la terre en a besoin, qu'on l'a trop martyrisée.
Oui, on le voit avec les inondations. Hein, c'est vraiment un problème de nourriture du sol et de destruction de la biodiversité. Le compostage, pour ceux qui ont des composteurs, ils vont voir vite qu'il y a plein de petites bêtes à l'intérieur. Ces petites bêtes sont essentielles pour justement aérer le sol et le nourrir par la décomposition. Et effectivement, en alimentant plus par des ressources naturelles, on a détruit cette biodiversité et on le voit aujourd'hui avec les inondations.
Et donc cette édition là qui se termine cette semaine, vous avez eu des retours, comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup de participants aux différentes animations?
Alors ça dépend des animations, mais on était effectivement dimanche dernier à la fête de la nature où là on a eu un peu plus de 70 personnes qui sont passées sur notre stand, donc plutôt un retour positif.
Merci beaucoup Delphine Deveau d'être venue dans Séquence Midi. Donc aujourd'hui ça se passe à Colombier et demain c'est à Vouneuil-sous-Biard que ça se passe. Merci beaucoup. Demain dans Séquence Midi nous recevrons tous les organisateurs du festival Accor. Mais tout de suite c'est l'heure de votre agenda. Avec une conférence débat écofascisme, extrême droite et écologie, c'est à 18h avec Alexis Cuquier qui est du département de philosophie de l'université de Poitiers et c'est co-organisé par les associations Volar et Écophilia, l'UFR Sciences Humaines et Arts, rue René Descartes à Poitiers, salle 203. À 18h30, concert et débat à la place des femmes dans la musique en proposant par exemple des œuvres qui ont été volées, des œuvres composées par une femme mais dont un homme se l'approprie, des chansons traditionnelles qui abordent la maltraitance et viol, etc. ou encore des œuvres autour de personnages de la musique ancienne. Échange par la suite avec le CIDFF, c'est organisé par le Pôle Aliénor d'Aquitaine et c'est à l'Auditorium Sainte-Croix, c'est gratuit. Conférence de Catherine Pinvin, c'est à 19h à l'Espace République Corner. C'est une femme entrepreneur qui va vous proposer donc ce rendez-vous à l'Espace République Corner. Elle va parler de sa vie, des entreprises qu'elle a développées et créées au plus haut niveau, mais aussi de ses doutes et de ses paris audacieux. Concert orchestre Josquin Després, c'est à 20h30 à l'église Sainte-Thérèse à Poitiers. Donc l'orchestre de l'ensemble Josquin Després donnera son concert de printemps à l'église Sainte-Thérèse avec au programme symphonie concertante pour vent de Mozart, concerto pour violon de Mendelssohn et symphonie italienne. Enfin, le petit laboratoire de Madame Lupin s'installe à partir d'aujourd'hui et jusqu'à début janvier 2025 à l'espace Mendès France, un espace interactif et immersif. Madame Lupin est chercheuse curieuse, elle s'intéresse au monde qui l'entoure et particulièrement aux objets étonnants qu'elle ramasse au détour d'un chemin ou dans un vieux grenier à l'abandon. Son bureau, pas toujours bien rangé, témoigne de son imagination débordante. On peut y trouver des choses curieuses, des objets qui bougent tout seuls ou qui défient la gravité, des illusions d'optique et bien d'autres instruments scientifiques. Un univers à découvrir pour adultes et enfants à partir de 5 ans. L'accès est libre et la visite se fait en autonomie avec un livret-jeu en lien avec ce petit labo en vente à l'accueil. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h à l'assaut, présenté par La Fève. À 19h, c'est du slam. Dans Slam à tout va, à 20h, Pétale de Sakura, on part en Asie. À 21h, Culture Dub. Et à 23h, Novorama. Merci Esteban et Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Bam Bam's Boogie. Ce titre Mescaline, c'est de l'électro-soul. Et c'est un trio formé à Berlin en 2022. Bon après-midi en musique. À demain.
Regardez.